Bienvenue à Aime l'été, milieu de la semaine. On commence à penser à la fin de semaine qui s'en vient. Nous avons de belles suggestions pour des escapades sportives, culinaires ou pour revoir du cinéma qui met la gastronomie à l'honneur. Également, on part sur la route des Bleuets à vélo. Et oui, on ne perd pas les pédales. Mais pour la prochaine heure, on vous propose de belles rencontres, mais aussi de belles explorations musicales. Soyez des nôtres à Aime l'été. Aujourd'hui, à l'émission, on discute avec le chef et directeur culinaire chez Fermont, le manoir Richelieu, au sujet d'un été gourmand et festif au manoir qui nous en met plein les papilles. Le centre d'activité La Palissade, centre d'activité de plein air et d'escalade qui vous attend dans la belle région de Charlevoix. Notre chroniqueuse Camille Cusset, notre chroniqueuse cinéma, nous parle de cinéma culinaire. Mais pour commencer, il sera question de la véloroute des Bleuets qui ceinture le lac Saint-Jean, un parcours d'environ 250 km. J'espère que vous êtes bien en selle. Voici Aime l'été.
White.
You say bar,
I say bite.
You say shark,
I say him. And George was never my scene, and I don't like Star Wars.
You say Rose,
I say Roy.
You say God,
give me a choice.
You say Lord,
I say Christ. I don't believe in Peter Pan, Frankenstein, or Superman.
Ben, c'était Bicycle Race, une chanson du groupe britannique Queen, sortie en single en 1978. Hein, j'aimais bien les petites cloches, ça nous rappelait de beaux souvenirs. Et ça existe encore, il y en a qui s'en font poser, effectivement, juste pour le plaisir. Eh ben, on va accueillir Michel Chiasson, président de la Véloroute des Bleuets, cette belle route, finalement, qui a été inaugurée il y a une vingtaine d'années quand même. Bonjour, Michel Chiasson.
Bonjour, madame.
Alors, c'est ça, c'est un tour de, quoi, 250 kilomètres au moins. Alors, c'est vraiment la popularité du circuit, même du circuit long, ne se dément pas. Hein? Chaque portion de la route apporte son lot de surprises et de paysages.
C'est en plein ça. C'était 256 kilomètres en tout. On traverse 15 municipalités, plus une municipalité amérindienne qui est Mastoyach. Il y a plein de choses à voir. On a quand même, puis on n'a pas beaucoup de dénivelé, environ 500 mètres de dénivelé sur 250 km, c'est quand même pas beaucoup.
Ben non, effectivement. Donc, c'est, on peut dire oui. que c'est accessible pour bien des gens,
oui.
là.
Oui, c'est accessible pour toute la famille. Il y a beaucoup, le 80% de la véloroute, puis même 99% est en asphalte.
Mm-hmm.
Puis on reste encore peut-être un petit peu sur le bord de la grande route, mais de moins en moins, il reste environ 50 km sur le total. Là, c'est tout en piste cyclable.
Ah, ben c'est merveilleux.
Ou dans les routes des rangs désignés qu'on appelle les routes partagées, qu'il n'y a pas beaucoup de circulation puis que la vitesse est réduite.
En fait, je pense qu'il reste seulement, le seul parcours qui n'est pas asphalté, c'est dans le parc national de la Pointe-Taillon, hein, cette presqu'île là, finalement, qui fait à peu près 16 km.
Oui, c'est ça, vous êtes bien informé.
Ah ben écoutez, on a fait nos recherches. Mais c'est pas ça, mais aussi j'ai des amis qui sont allés, même de plusieurs couples d'amis qui sont allés cet été. C'est une belle activité, vraiment. Et puis, bon, je ne sais pas si tout le monde y pense à ça, mais c'est vraiment fantastique.
Ben, on peut dire que depuis la pandémie, on a eu vraiment une augmentation d'achalandage.
Assurément.
Même des personnes, tu sais, les personnes locales ici, là, ils ont beaucoup de monde qui ont redécouvert la véloroute. Comme tu disais tantôt, ça a été inauguré en l'an 2000. Là, c'est sa 22e année. Puis il y a eu beaucoup, beaucoup de bonifications, d'améliorations. Puis il y a plein de... On a maintenant des parcours, on a les parcours gourmands avec les microbrasseries, les restaurants. Tu sais, on essaie d'ajouter plein de choses pour donner encore plus d'attraction à tout le monde.
C'est ça, parce que, bon, il y en a pour tous les goûts. Ce qui est intéressant, là, c'est qu'en fait, en allant sur le site, vous nous donnez, bon, à la fois bien des choix, des possibilités. C'est très, très bien détaillé. On peut faire le tour du lac en 3 jours, en 4 jours, en 5 jours. Puis à chaque fois, vous nous donnez un aperçu de la randonnée avec, évidemment, ce qu'il y a à voir. C'est merveilleux.
Oui. Puis, c'est comme on dit aussi, il n'y a pas de, y a pas vraiment de point de départ officiel, parce que la véloroute, c'est vraiment, c'est une boucle. Fait que, on peut partir de Dolbeau, on peut partir de Roberval, on peut partir d'Alma, de Péribonca, de partout, des petits villages. Si des fois, on a de la parenté, quelqu'un, ben, on s'installe là, puis on fait notre tour du lac en 3-4 jours, on visite, on revient chez nous. Fait que, c'est ça, c'est un gros avantage qui est marqué, parce que quand on a un parcours linéaire, vraiment, tu sais, d'une véloroute, il faut que tu partes d'un point A à un point B, il faut que tu reviennes. Mais nous, c'est vraiment différent tout le long.
C'est ça. Donc, c'est pas n'importe où qu'on peut avoir cette chance, de faire cette comme une boucle, effectivement,
oui.
et de pouvoir partir de n'importe où, et avec une facilité aussi au niveau du parcours, et si bien entretenu. Puis bon, par moment, comme vous dites, on est dans des petites pistes cyclables, dans des petites municipalités, là, finalement, où on partage la route avec les autres cyclistes, les poussettes, peut-être des gens qui font du patin à roues alignées, qu'importe, mais je veux dire, c'est vraiment... ça se fait de façon fort agréable, avec justement une possibilité de découvrir des lieux, des restaurants, comme vous dites, des microbrasseries. Alors, évidemment, bon, alors c'est ça, ce qui est intéressant, c'est que chaque parcours a son lot de ses points d'intérêt, dans le fond, hein, c'est ça?
Ben, c'est ça, oui, des points d'intérêt, des points différents, comme on dit, des fois, la partie sud, autrement dit, la partie Roberval, Saint jusqu'à Saint-Gédéon, on est plus près du lac. Même à Mastoyach, on roule à 5 mètres du lac. Tandis, puis quand on va dans la portion nord, c'est plus peut-être côté agricole, forestier, des bleuetières du côté de Dolbeau, de Normandin, Albanel. C'est vraiment différent. C'est ça qui fait là, que c'est un parcours unique, parce qu'on voit de tout. Quand on dit de tout, c'est vraiment de tout. Même les animaux. On a des orignaux qu'on voit de temps en temps. Il y a des places où on a des ours, mais pas vraiment beaucoup d'ours. On peut en voir, par contre, au zoo de Saint-Félicien, qui est quand même à proximité de la Véloroute des Bleuets.
C'est ça.
On est vraiment un parcours idéal pour la famille. Oui,
ouais, exactement. Donc, c'est très bien documenté. Et non seulement ça, vous pouvez nous indiquer même la météo en allant sur votre site, la Véloroute des Bleuets. C'est ça. Oui. Donc, vous nous dites à quel moment nous visiter, idéalement pour certaines personnes, là, qu'est-ce qu'on, non seulement ce qu'on va voir, mais la température qu'il fait généralement.
Oui.
Et puis c'est ça, il y a vraiment plein de choses à lire sur votre site qui nous guide finalement, qui nous donne de précieux conseils aussi pour les cyclistes en même temps.
Parce que même sur le site aussi, on parle de l'état de la chaussée, puis des fois, quand il y a des travaux qui sont exécutés, ben ils sont mentionnés sur le site de la Véloroute. Fait que comme ça, bon, on est capable de se prévoir des fois des ben, peut-être pas des parcours différents, mais les heures, parce que même cette année, on a eu beaucoup de travaux. Puis on a des navettes qui vont déplacer les cyclistes d'un point, peut-être des fois pour 500 mètres ou 1 km, parce que c'est pas carrossable en vélo. Fait, mais là, les navettes, c'est indiqué. Les heures de navette, la quantité, fait que, c'est tout est mentionné sur le site aussi avec ça.
Exactement. Puis on peut réserver, évidemment. Bon, on peut avoir un service de navette de bagages également.
Oui, service de navette de bagages qui va prendre. Mais pour le service de navette de bagages, là, par contre, il faut partir de Alma parce que les bagages doivent être inscrits.
Ah, c'est sûr, ça. Il faut une
destination
à la
maison
précise.
Du vélo à Alma. Puis là, quand vous allez vous promener léger avec votre vélo, vous allez arriver à votre hôtel le soir, puis vos bagages vont être rendus, ils vont vous attendre tout près. Fait que c'est encore un autre point de plus. On essaye de tout le temps innover un peu.
C'est ça. Donner une idée aux gens aussi pour, ben, évidemment, les lieux d'hébergement en même temps, des choses comme ça. Alors vraiment, c'est très complet. Diriez-vous, bon, depuis la pandémie, l'augmentation, vous dites, ben, évidemment, c'est allé en croissance, là, cet achalandage, mais bon, vous diriez, s'intéresse, bon, la plupart des gens, finalement, vous diriez, est-ce que bien des gens font le tour complet?
Ben, peut-être, on va dire peut-être 40% qui font le tour complet. Le reste, parce que c'est plus les visiteurs qui viennent d'en dehors qui vont faire le tour complet. Mais on a beaucoup d'utilisateurs, comme je te disais tantôt, de la région, des petits villages ou les villes qui ont, avec la pandémie, qui avaient besoin d'aller prendre l'air. Puis nous autres, tu sais, ça a explosé. On a dépassé 300 000 utilisateurs l'année passée.
Ah, quand même.
Puis c'est vraiment il y a peut-être 60% là, que c'est vraiment des gens locaux qui servent de la véloroute, qui l'apprécient de plus en plus.
C'est ça.
Puis comme tu mentionnais tantôt, on peut dire, c'est rendu on ne peut même plus appeler ça vraiment des pistes cyclables. C'est des multifonctionnels. Tu sais, il y a des rouleurs, il y a des vélos assistance électrique, il y a des marcheurs, il y a des poussettes, comme tu disais. Fait que, tu sais, c'est vraiment multifonctionnel maintenant, oui.
Ben oui, puis dans la région, j'imagine qu'on peut louer aussi des vélos. Il y a cette offre-là, bien sûr, qui est certainement disponible.
Oui.
Et puis, ce que je voulais dire aussi, c'est que, est-ce qu'il y a des coups de cœur? D'abord, il y a des terrains de camping aussi sur le parcours. Ça, c'est important à savoir. Et puis, les coups de cœur, finalement, peut-être comme quelqu'un qui n'a pas beaucoup de temps, là, qu'est-ce que vous pouvez suggérer aux gens?
Ben, dépendamment de ce que les personnes aiment, mais quelqu'un qui veut la plage, c'est comme dans le bout de Saint-Vrédéon, il appelle ça le Rigolet. Il y a une plage là qui est magnifique pour se baigner. Il y a des terrains de camping pas loin. Il y a des hôtels pas loin. C'est Saint-Gédéon, Métabetchouan, Robert-Ball. C'est tout près de là. Si, par contre, quelqu'un qui aime mieux, mettons, la forêt, on a, à partir de Dolbeau, il y a le parc régional des Grandes Rivières. Il y a des sentiers pédestres qu'on peut faire. Il y a du camping aussi, mais il y a des sentiers pédestres qu'on peut rajouter à ça. Comme je vous dis, on est peut-être un petit peu plus loin du lac, mais il y a plein de gens qui adorent ça. Pour la période des bleuets, à partir là, comme là, on est normalement entre le début d'août, aller au 15 ou 20 août, c'est vraiment la récolte de bleuets. Là, elle bat son plein présentement. Fait que c'est les gens qui veulent voir ça, qui veulent. Il y a la chocolaterie des Pères Trappistes qui font du chocolat au bleuet.
Ah ben oui, ça, on connaît, bien sûr.
ça c'est le.
C'est le classique.
Le coup de ça, c'est le coup de cœur de la région,
tout
pas
à
mal
fait.
Pour nous autres, là, les.
Quand on parle du parc national de la Pointe Taillon, là, qui fait à peu près 16 km, c'est inclus dans le 256, là?
Oui, c'est inclus. Mais le 16 km, c'est que la véloroute traverse par le parc de la Pointe Taillon. Mais par contre, le parc, lui, tu peux faire le tour. C'est une boucle de 40 km. Dans le parc, tu peux réserver. Il y a du camping que tu peux faire là. Tout le long du parc de la Pointe-d'Orion.
C'est
vraiment de toute beauté. On est complètement sur le bord du lac d'un côté. Puis quand on revient sur l'autre côté, on est sur le long de la rivière Péribonka. Il y a même des navettes maritimes qui peuvent te traverser de Péribonka qui va aller sur le parc de la Pointe-d'Orion. Tu peux aller te promener toute la journée sur le parc. Tu reviens le soir, tu reprends la navette, tu reprends ton vélo, tu continues ton vélo envers Bellebeau-Missatigny. Tu sais, il y a plein de possibilités. C'est, est comme, on dit, on est sans limite des possibilités.
C'est ça. Puis au niveau de l'hébergement, parce que je repense aux amis en question, il me semble, c'était un hébergement, c'était pas des maisons bateaux, là, mais en fait, c'était vraiment très, très. Ils étaient très seuls, là, avec des petites maisons sur le bord du lac.
C'est à Alma qui loue ça, à l'Auberge des Îles, que tu es capable de louer ça.
D'accord.
Puis, même des fois, moi, j'aime ça faire des fois, on dit l'hébergement, parce que nous, des fois, dans les petits villages, on manque un peu d'hébergement. Mais j'ai vu plein de gens, des fois, que moi, je dis, quand ils ne veulent pas faire trop long chaque journée, ben, on peut se prendre, un hôtel à Alma, puis une journée, tu viens d'un côté, tu vas faire, mettons, 20 ou 30 kilomètres d'un côté, tu reviens à ton hôtel. Le lendemain, tu vas faire l'autre côté, tu reviens.
Ah, c'est bien.
Deux jours après, tu peux aller prendre un hôtel à Roberval. Donc, tu es plus autonome. Si t'arrives une journée qui pleut, ben, tu peux rester à ton hôtel, tu peux voir, tu peux aller visiter en auto. Fait que, tu sais, c'est encore d'autres possibilités qui sont vraiment plaisantes à regarder.
En tout cas, c'est des possibilités multiples. Et puis, on parlait du parc de la Pointe-Taillon, la végétation qui passe de la tourbière à la forêt de bouleau. Enfin, c'est vraiment extraordinaire. Mais alors, c'est tout le temps dont on dispose. Mais évidemment, on peut faire ça, évidemment, jusqu'à l'automne, là, facilement.
Oui, c'est toi jusqu'au 15 octobre. Puis
parfait.
Il y en a beaucoup, même. Il y a beaucoup de monde qui viennent un petit peu plus tard, comme la fin de septembre, le début d'octobre, parce que les journées sont plus courtes, mais sont plus fraîches.
C'est
donc,
ça.
En vélo, c'est très agréable quand même.
Tout à fait. Eh bien, merci d'être venu nous en parler, là, M. Chiasson. Ça a été un plaisir. Et puis, effectivement, c'est une belle activité à mettre à notre agenda.
Ben, merci. Merci beaucoup à vous de votre invitation, puis une bonne été, puis on espère vous croiser sur la véloroute.
Sur la véloroute, certainement un jour, absolument. Merci, au revoir, bonne journée à vous. Et bonne fin d'été, au revoir.
Merci.
Levons nos verres sans raison. Il suffit de vivre, c'est bon. Mais c'est meilleur et c'est moins long. Avec un peu d'ivresse, viens, on se casse la voix. Viens, on se casse là-bas. Là où l'amour est toujours roi. S'inventer des princesses. Le patron te fait la misère.
C'est rien.
T'as le moral sur une civière.
C'est rien.
T'es encore fatigué d'hier.
C'est rien.
On réfléchira demain. Tant pis pour le cœur à moitié vide. Que des potes, on en a plein. On est tous nés pour faire la fête, comme si on l'avait jamais faite. La fête. On est tous nés pour faire la fête, au pire on l'a fait dans nos têtes, comme si on l'avait jamais faite. Tu peux t'inviter sans raison. Sois à l'aise comme dans ton salon. Viens meubler ta tristesse. Viens, on se la joue, on se pavane. On se prend pour les lions de la savane. On est les rois de la Havane.
Havana, oh nana.
Ton histoire d'amour bat de l'air.
C'est rien.
Dans ton café t'as mis du sel.
C'est rien.
T'es trop petit pour toucher le ciel.
C'est rien.
Parce qu'on grandira demain. Tant pis si on tombe dans le vide. Tant qu'on a le verre à moitié plein. On est tous nés pour faire la fête, comme si on l'avait jamais faite. La fête. On est tous nés pour faire la fête, au pire on l'a fait dans nos têtes, comme si on l'avait jamais faite. On a presque plus rien à boire.
Mais on est là.
Le bar va fermer, tout est noir.
Mais on, est là.
On continue sur le trottoir.
Mais on, est là.
Hey.
On, est là.
Mmh.
On est là.
On va encore entrer trop tard.
Mais on est là.
Je crois que j'ai un œil au beurre noir.
Mais on est là.
J'ai encore cassé ma guitare. Je m'appelle Jimi Hendrix ce soir. Oh, on est tous nés pour faire la fête. Comme si on l'avait jamais faite. La fête.
Aïe, 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 aïe.
C'était Amir, cet auteur-compositeur-interprète franco-israélien, né le 20 juin 1984 à Paris, révélé en France dans The Voice. Amir a su s'imposer comme l'un des artistes francophones les plus populaires, un aboutissement pour le franco-israélien initialement destiné à devenir dentiste. Et oui, alors c'était la pièce, la pièce avait pour titre La Fête. Et ben, depuis le début de l'été, il y a fête, non pas au château, mais au manoir Richelieu, le Fermont Manoir Richelieu et Casino qui vous propose un été gourmand et festif. On en parle avec le chef Sébastien Grangier, directeur culinaire chez Fermont, le Manoir Richelieu. Bonjour.
Bonjour, Chantal.
Ah, ben vous allez bien?
Ça va bien, et vous?
Ah, ben oui. Alors, Sébastien, vous êtes natif du sud-ouest de la France. Vous étiez, bien sûr, dans le domaine culinaire depuis fort longtemps. Déjà, quand vous avez décidé, en 2018, comme ça, de faire le grand saut vers le Québec, de vous installer ici en joignant les rangs du Fermont Manoir Richelieu, il y a pire hein, comme environnement de travail, M. Grangier?
Écoutez, c'est une région merveilleuse.
Oui, hein? Absolument. Ben, c'est parmi nos plus belles, il faut le dire. Et vous êtes arrivé à un moment aussi, je dirais, bon, en 2018 quand même, il y avait déjà cette effervescence, cet intérêt chez nous, en tout cas pour la cuisine, les nouvelles pratiques aussi, les produits locaux. Vous l'avez senti, cet engouement?
Oui, ben, en fait, quand je suis arrivé, j'ai été impressionné quand même de la diversité qu'on trouvait dans Charlevoix, justement de tous les producteurs locaux, les quantités de fromage, charcuterie, fruits et légumes qu'on pouvait trouver dans des fermes bio, dans des élevages très respectueux de l'environnement. Et j'avoue que j'ai quand même été surpris de cette effervescence qu'il y avait avec la Route des Saveurs à l'époque, là, qui était vraiment une belle association.
C'est ça, parce qu'évidemment, nos saisons sont courtes, mais tout de même, on réussit à faire très, très bien pour le temps dont on dispose. Alors, bien sûr, est arrivé aussi, pas longtemps après, la pandémie. Alors, c'est sûr que ça a comme été un peu particulier, mais ça, c'était partout ailleurs dans le monde. Mais dans la région de Charlevoix, notamment, on retrouve quand même des entrepreneurs, c'est ça, des restaurateurs, des producteurs qui continuent de développer sans cesse des produits intéressants. Alors, ça fait un milieu de travail fort dynamique pour vous, finalement.
Oui, oui. Puis il y a une belle alchimie avec les producteurs. Déjà, il y a beaucoup d'échanges. Souvent, ils nous demandent, à nous, restaurateurs, quels produits on pourrait avoir besoin. Puis même entre restaurateurs, souvent, on se voit, on se parle pour savoir un peu, pour garder un lien, en fait, entre tous. Et je trouve que c'est aussi ce qui fait la beauté dans la région, là, d'avoir cette proximité entre nous.
Oui, diriez-vous que, bon, c'est sûr qu'en France, bien sûr que j'imagine que la compétition est quand même installée depuis longtemps. Je ne sais pas, il y a peut-être, puis là je m'avance, là peut-être que j'ai tort, mais bon, il nous semble en tout cas que c'est un milieu beaucoup plus compétitif, alors qu'ici, finalement, on est obligé de collaborer davantage.
Oui, ben, vous avez tout à fait raison. En fait, en France, c'est beaucoup moins convivial. Puis moi, là où j'étais installé, je n'ai pas eu vraiment beaucoup plus de contact que ça avec les autres restaurateurs autour de moi. J'avais quelques amis, mais sans plus. Alors qu'ici, régulièrement, il y a quand même des échanges. Et puis, même sans le connaître, tu peux aller voir un autre restaurateur, puis parler avec lui, puis on va échanger sur nos besoins, nos défis. Et ça, je trouve ça vraiment bien. La MRC Charlevoix-Est fait un super travail pour mettre en avant aussi les producteurs. C'est vraiment une région qui est très active là-dessus.
C'est ça. Donc, alors évidemment, vous aviez vos défis à vous parce que, bon, vous démarquez quand vous joignez les rangs quand même d'une brigade de, bon, vous êtes à peu près une cinquantaine de personnes là au manoir.
Un peu moins en ce moment, mais en temps normal, on est même 60.
Ah, d'accord. Bon. Alors, évidemment, il y a plein de choses. C'est sûr que, bon, il y a des événements corporatifs, des banquets, des mariages, il y a toutes sortes de choses. Mais là, pour cet été, vous avez conçu quand même, vous avez conçu pour tout l'été, là, c'est très festif, là, comme menu. Alors, c'est vraiment jusqu'à la fin de l'été, là, on a plein d'occasions gourmandes, des événements culinaires et festifs.
Oui, oui. Puis déjà, il faut encore profiter des derniers jours, je dirais, puisqu'on a quand même la chance d'avoir de très belles terrasses qui donnent sur le fleuve. Donc, là, il faut profiter des beaux jours encore qui s'annoncent devant nous au mois de septembre. Et puis après, effectivement, avec le complexe du casino de Charlevoix, on a travaillé pour fêter un peu l'avant-reprise de l'école, on va dire, les féeries. où là, effectivement, il va y avoir des food trucks très variés, avec aussi bien du sucré, du salé, tout ça. Il va y avoir des montgolfières, des tours d'hélicoptères, un feu d'artifice. Sur le devant de l'hôtel, on a un feu qui est allumé tous les soirs. Puis là, il va y avoir un chansonnier pour faire une animation musicale. Donc vraiment, on a trois belles fins de semaine qui vont être particulièrement
chargées
et
animées. Oui, c'est ça. Ouais. Alors, de toute façon, tous les mercredis, jeudi, vendredi, bon, depuis le début de l'été, vous aviez vos soirées, c'est ça, vos soirées barbecue. Exactement. Vous avez eu des soirées barbecue méchoui, évidemment. Bon, il y a aussi des soirées que vous appelez les soirées de pleine lune, les 4 à 7 également. Puis ça, c'est jusqu'au 10 septembre, oui.
C'est ça, oui, tout à fait. On fait ça dans le jardin Richelieu, qui est un petit peu plus abrité, pour éviter d'avoir l'air du fleuve qui refroidisse un peu l'ambiance. Et puis, effectivement, on a des assortiments de charcuterie fromage de la région, avec un DJ qui va pour mettre un petit peu d'animation.
Oui, c'est ça. Et puis donc, comme vous avez parlé, les féeries qui s'en viennent à la fin de l'été, donc vraiment. Et puis là, on parle aussi même, il y aura comme une espèce de, c'est place au marché gourmand, popote roulante. Qu'est-ce que c'est? C'est ça parce qu'il y a même des tours d'hélicoptères. Là, vous en avez parlé tout à l'heure un petit peu de ces féeries, oui.
Oui. Ben, après, au mois de novembre, on va faire, autrefois, on avait ce qu'on appelait le gala des chefs. Et puis là, cette année, on va le refaire sous une forme un petit peu différente. C'est-à-dire qu'on veut faire une soirée caritative, en fait, au profit de la Fondation contre le cancer du sein. Mm-hmm. Et donc, on va faire le grand marché en rose pour le conné rose de l'association. Et puis, on va inviter autour d'une quinzaine de chefs qu'on va pouvoir rencontrer durant un cocktail dînatoire, puisque eux vont proposer quelques bouchées à goûter. Il y aura des producteurs locaux qui vont mettre en avant leurs produits durant cette soirée-là. Et l'idée, c'était de permettre à tout le monde de rencontrer justement les chefs que souvent on ne voit pas ou peu parce qu'ils sont un peu cachés dans leur cuisine.
Oui, bien sûr.
Et puis là, c'est de les mettre un peu sur le devant et de donner l'occasion de pouvoir les rencontrer puis de discuter avec eux.
Ah ben c'est vraiment complet, alors c'est intéressant. Et puis bon, vous accueillez bien sûr les touristes québécois, mais vous accueillez
bien
aussi
sûr
les touristes étrangers, alors ça c'est autre chose. Et puis, alors j'imagine que, bon, je voulais juste voir avec mon régisseur, c'est tout le temps qu'on a? C'est ça. Bon, écoutez, alors malheureusement, monsieur, Sébastien Grangier, on va effectivement aller vous voir à l'hôtel Fermont, le manoir Richelieu, et déguster vos plats. Je suis sûre que, tout le monde sera ravi de toutes ces belles innovations.
Merci beaucoup. On vous attend avec plaisir.
Merci bien. Au revoir.
Au revoir.
Vous écoutez Aime l'été.
Et oui, Chantal Lavoie avec vous. Deuxième moitié de l'émission Aime l'été. Dans les prochaines minutes, on va rester dans la belle région de Charlevoix. Nous allons parler d'un centre d'activité de plein air et d'escalade. Et oui, la Palissade avec François-Guy Tivierge qui en est propriétaire. Alors, restez des nôtres. On s'en va en musique et j'en profite aussi pour remercier nos collaborateurs Camille Cusset et Méliane Fafard à la recherche ainsi que Nicolas Wartmann à la régie.
J'ai grimpé sans lâcher mes principes et mes valeurs. Jamais j'oublierai d'où je viens, je sais ce que c'est d'être un homme de couleur. Je sais ce que c'est de taffer deux fois plus pour pouvoir être à la hauteur. Si je chante la cosmopolitanie, c'est parce que j'en ai vu de toutes les couleurs. On m'a dit petit, réveille-toi, t'es un peu trop rêveur. Petit, tu as un trop gros appétit, la réalité est fade et sans saveur. Oublie tes rêves d'ado, comme tout le monde suit le troupeau. Mais le têtu que j'étais avait de la détermination plein le sac à dos. Aucune de leurs dissuasions m'a mis le genou à terre. Aucun médecin au monde ne pouvait soigner ma fièvre. Tout est possible quand tu sais qui tu es. Tout est possible quand t'assumes qui tu es. Aujourd'hui regarde-moi contempler mes sacrifices au sommet de mon Everest.
I know, I know, I know, I gotta fight.
chanté, j'ai chanté l'amour et la paix pendant des années. Je suis ce mélancolique qui se soigne quand ces MAUX se mettent à rimer. Un rappeur positif pour donner de l'espoir à cette jeunesse désabusée. À l'heure où on nous braque avec un AK-49.3 pour nous faire plier. Ma famille, ma famille, ma famille, tout roule pour moi car ce sont mes moteurs. Mon carré VIP, c'est mon cercle familial, pour eux je brillais avant les projecteurs. I love you Comoria, I love you Massilia. Mon image, mon discours, mon parcours, mon combat, tout ça c'est pour pouvoir leur faire honneur. Le cancer m'a volé un frère, il n'y a que mes gosses pour éponger mes pleurs. Toujours debout à chanter que l'amour est le meilleur fusil contre la terreur. Je le décharge quand je chante, dans une MJC ou dans les restos du cœur. Je suis de retour plus humain que jamais, envoyez-moi des sourires plus que des fleurs.
Et ben voilà, c'était la chanson « Mon Everest » avec le rappeur français Soprano, alors subjugué par la voix de la jeune Marina Kay, cette jeune auteure, compositrice, interprète française, née le 9 février 1998 à Marseille. Le rappeur va lui proposer un single en duo avec cette pièce « Mon Everest ». Mon Everest, sorti en 2016, extrait de l'album du même nom. Voilà, alors c'était l'introduction pour parler d'un lieu qui est fort intéressant, un centre d'activité de plein air et d'escalade, la Palissade. Mais comme on tente de joindre François-Guy Thivierge, le propriétaire, effectivement, qui est peut-être dans sa montagne.
Qui sait?
sûrement. Alors, peut-être que la communication peut être difficile. Alors, on va plutôt passer à Camille. Camille, ben, on aurait pu entendre la musique du film Ratatouille parce que vous allez nous parler justement vous faites la chronique cinéma, Camille, mais sur le cinéma culinaire cette fois-ci.
Exactement, ben oui, j'aurais pu vous en parler parce que bon, ce film d'animation qui est sorti en 2007 a été un grand succès, qu'il a beaucoup plu aux plus jeunes et aussi aux plus âgés. C'est un film qui raconte les aventures d'animation d'un rat nommé Rémi qui est séparé de sa famille d'une fuite en catastrophe de sa colonie de rats. Et qui va s'installer dans les cuisines de chez d'un grand restaurant parisien. Donc un film qui s'est tissé dès sa sortie en tête du box-office aux États-Unis, en France et aussi au Royaume-Uni. Et ce film donc va être un grand succès et recevra de grandes récompenses, dont l'Oscar du meilleur film d'animation
oui, c'est
2007.
Quand même spécial, hein.
Vraiment.
Oui. Ah non, ça, je me souviens très bien, j'avais adoré ce film.
Combien de fois vous l'avez vu par curiosité?
Ah ben je l'ai vu certainement une fois, mais je me souviens pas de l'avoir vu plusieurs fois. Une fois, ça c'est certain. Ouais.
Ah, je suis du genre à regarder les films, surtout d'animation, plusieurs fois.
Oui. Ah mais c'était fort sympathique, évidemment. Mm-hmm. Alors voilà, alors ça c'est pour Ratatouille, et puis c'est ça, puis la musique qui nous est familière aussi. Bon.
Oui, c'est ça, bah, qui berce tout l'univers, même si quand même il faut noter qu'un rat dans une cuisine, ça n'a rien de très hygiénique.
Hein. Pas vraiment, non, mais dans les films d'animation, l'émission, c'est sympathique.
Ça passe, exactement. Donc oui, ben moi je voulais vous parler, oui, aujourd'hui du cinéma culinaire en écho avec cette rencontre que vous avez eue avec le chef Granier. Et j'ai trouvé donc beaucoup de classiques donc sur ce type de cinéma qui permet de faire un mélange de deux arts, deux styles. On a donc la gastronomie et donc les images avec lesquelles on peut faire de très belles choses, de beaux plans séquences, c'est-à-dire des plans de plusieurs endroits d'un même décor ou d'un même plat, des bons gâteaux. D'ailleurs, il y a un des films donc qui a marqué son temps, Marie-Antoinette, donc qui est sorti en 2006.
Oui, là, on voyait vraiment, c'était une orgie de gâteaux plus colorés les uns que les autres. C'était fabuleux, il faut absolument voir, c'est incroyable.
Le plaisir des gourmands, moi j'aime beaucoup les gâteaux, donc là oui, donc on voit donc les gâteaux de Marie-Antoinette.
C'est ça, c'est une belle présentation. De Sofia Coppola.
Exactement.
Ils ont dû se régaler, enfin. Bon, je ne pense pas qu'ils étaient tous comestibles, mais à tout le moins, ils étaient jolis.
Tout à fait. On a aussi le film Julie et Julia, donc, qui est interprété par Meryl Streep, donc, qui incarne cette célèbre écrivain Julia Child, l'une des célébrités de la gastronomie aux États-Unis. Elle est morte en 2004, et quelques jours avant son 92e anniversaire. Et donc, dans ce film, elle incarne Julia Child et une Julie donc essaie de refaire les recettes.
C'est ça, donc deux personnages différents, mais c'est vrai que c'était Julia Child. Enfin, c'est un peu, si on veut, notre Jeanne Benoît pour ceux et celles qui connaissent là, Jeanne Benoît qui avait écrit des livres de recettes qui étaient une référence pour nous les Québécois. Julia Child était comme ça une référence aussi. Ouais.
C'est tellement bien lorsque les films font ça en fait, qui racontent l'histoire et puis qui permettent à tout le monde de découvrir ce genre d'aspect de l'histoire.
Et puis quand vous voyez la vraie Julia Child et puis Meryl Streep, vraiment Meryl Streep a fait un travail remarquable d'interprétation.
C'est une grande actrice.
Elle l'imite parfaitement.
C'est une très grande actrice. Donc qui n'a pas vraiment rapport avec le donc on a des films comme La Grande Bouffe, Garçon, L'aile ou la cuisse,
ouais.
Exactement. Mais aussi, on a des festivals de films culinaires au Québec. On en a un donc, qui a commencé en 2017 à Baie-Saint-Paul. Il s'appelle Cuisine, Cinéma et Confidence. Cette année, il aura lieu début novembre, du 4 au 7 novembre.
Ouais, je pense que c'est le chef Jean Soulard qui avait initié ça.
Oui.
Jean Soulard qui était à l'époque, enfin, qui était au Frontenac, au Château Frontenac à Québec. Ouais.
Avec la productrice Julie Tremblay, exactement, tout à fait. Donc c'est un rendez-vous pour les épicuriens et les amoureux de la bonne cuisine.
Ouais, ouais. Je me permets aussi, Camille, il y avait Le Festin de Babette, hein. Enfin, c'est un film danois.
Oui, un classique, ça. J'avoue que je ne l'ai pas vu, ce film.
Mais alors, c'est en fait, juste pour vous résumer, dans le sens que...
Merci.
Non, mais c'est parce qu'elle avait gagné de l'argent à la loterie, enfin. Ben, je vous passe l'histoire au complet, là, mais en fait, et elle décide de faire un souper comme ça, elle va tout flamber son argent pour un souper, un soir. Alors, c'est tout c'est la confection de ce repas unique, enfin. C'est
dans un
spécial.
Grand restaurant?
Non, ça va être... Non, ça va être pas dans un grand restaurant du tout, mais c'est dans une espèce de petite auberge, enfin, bon, il faut aller voir, Le Festin de Babette, c'est un classique, ça aussi.
Bon, et puis donc ça, c'est pour le cinéma, mais j'ai trouvé aussi que la cuisine était bien représentée dans le documentaire, hein. Ça a une utilité d'information, le documentaire, mais c'est une œuvre, contrairement au reportage, en fait, qui sert beaucoup l'actualité. Le documentaire, on est beaucoup plus sur quelque chose qui va durer dans le temps, qui
Absolument.
Va nous raconter une histoire, donc c'est une œuvre aussi à part entière et qui a le mérite d'être revue. On a dans le style culinaire À pleines dents. Donc c'est une série documentaire française qui a été diffusée en 2015 sur Arte avec Gérard Depardieu en compagnie de son chef cuisinier Laurent Audiot.
Donc, d'accord, oui.
Oui, tout à fait. C'était son chef. Il a été chef pendant 13 ans et il a écrit un ouvrage À pleines dents et donc le documentaire a repris ce nom-là. Et donc, dans son livre, évidemment, il parle de son amour pour la cuisine. Il décrit beaucoup de recettes. Et donc, le concept a été repris pour une série documentaire. On peut la revoir, si on est intéressé, sur Arte. Arte Boutique. Donc, ça, c'est la plateforme. On peut la trouver sur Internet
D'accord,
facilement.
Oui.
Le documentaire qui serait intéressant à voir, donc ça, c'est vraiment pour de l'éducation, ce serait Super Size Me ou Malbouffe à l'américaine. Au Québec. Donc c'est un documentaire américain. Il a été réalisé par Morgan Spurlock Et en fait, il se nourrit de McDonald's.
Oui, je me souviens.
Oui, ben ça a eu des retombées, beaucoup. Pendant un mois, 3 repas par jour, juste ça. Il a pris 11 kilos, il a eu des problèmes de foie. Et c'est un film qui visait à dénoncer les effets néfastes. Exactement, de la restauration rapide.
C'était pas une bonne publicité pour McDonald's.
Pas du tout. Ils ont dû, d'ailleurs, McDonald's a dû supprimer son menu super size, donc... le gros menu,
ouais,
en
oui,
fait. Voilà, exactement. Puis, quand on a des fois du coke qui fait 1 litre et plus, on imagine bien que ça ne fait pas du bien pour la santé.
Non. Alors ça, c'est intéressant.
Ouais. Vraiment, oui, c'est un portrait d'une Amérique dont la santé se dégrade depuis des décennies, pas seulement à cause de McDonald's, mais la malbouffe en fait vraiment partie et qui a perdu le contrôle de son alimentation. Et ça...
Ouais.
Sans aucun jugement, on le vit tous, on est dans une vie un peu stressante des fois et on perd des fois le contrôle. Donc c'est une dénonciation, c'est sorti en 2004, ça a reçu une nomination aux Oscars en 2005, le prix du meilleur réalisateur pour Spurlock au Festival Sundance en 2004 et puis meilleur scénario aussi en 2005. Donc quand même, c'est un peu entaché par les accusations de viol et d'agression sexuelle dont a été accusé le réalisateur Spurlock. Il a avoué d'ailleurs les faits sur Twitter. Donc en 2017, il y a une suite qui est sortie, mais ça a été
un flop un peu peut-être. Oui,
exactement.
Sûr, hein.
Il a été...
On imagine bien.
Ouais.
Mais alors c'est ça. Donc ça c'est effectivement une autre façon de voir la bouffe. D'ailleurs, on a parlé au début de le film La Grande Bouffe qui était en fait une espèce de film un peu décadent sur la bourgeoisie. Mais
oui.
Là, dans ce cas-ci, c'est que les gens bouffent, mais jusqu'à en mourir, finalement.
Oui,
avec
exactement.
Marcello Mastroianni, Michel Piccoli, enfin...
Ils étaient Philippe 4,
Moiret.
Ouais, exactement.
Ah oui, au total. Alors, c'est ça, eux autres, ils se réunissent et puis ils vont manger.
Pour s'empiffrer,
tellement... Ah oui, c'est ça, mais jusqu'à la mort, finalement.
Ouais. Mm-hmm, mm-hmm. Ouais, c'est ça. Donc là, ce serait plutôt une dénonciation de ça.
Oui, oui. En tout cas, et puis, est-ce qu'il y a autre chose, Camille?
Oui, tout à fait. Ce qu'on trouve dans le cinéma aussi, avec la cuisine, ce sont les scènes d'action. Les poursuites, vous savez, dans les cuisines.
Ah oui, bien sûr, ça c'est toujours amusant, oui, c'est
ouais,
ça. Oui,
vraiment.
Ouais.
Et impressionnant hein, de voir, ils sont en train de se courir après dans des cuisines ou des espaces assez restreints, où il y a du feu, c'est très dangereux. Donc, il y a ça, les scènes d'action, oui. Et moi, je voulais parler aussi du stress, de stress en cuisine. Vous savez que, les pénuries de main-d'œuvre... C'est vécu beaucoup dans le milieu de
la restauration.
De la restauration,
bien sûr.
Merci beaucoup.
On sait que les chefs aussi, parfois, ça peut être un milieu très toxique également.
Exactement. Et donc, le film The Chief, qui est sorti en 2021, raconte ça. Donc, c'est un film britannique avec Stéphane Graham, donc, qui joue le chef cuisinier, donc, qui doit assurer absolument... son service pour le soir d'avant Noël, le vendredi juste avant. Il a beaucoup de gens et donc ça me met en plein sur la pression que vivent les équipes pendant ces périodes-là qui sont très stressantes, que ce soit dans la cuisine et à l'extérieur. Il faut bien paraître donc en arrivant pour faire le service, mais à l'intérieur des cuisines, c'est la folie. Puis bien évidemment, il y a le contexte personnel qui revient toujours. Ce sont des gens qui vivent des situations. Et donc, c'est un beau film qui présente bien ça. Il a été beaucoup primé par des chefs cuisiniers. Il y a beaucoup de chefs cuisiniers qui ont regardé ce film et dans les critiques, ils disent « c'est la vérité, c'est la réalité
».
Donc, un film très réaliste, très récent aussi, 2021. Donc,
mérite
d'être vu.
C'est particulier, oui, parce qu'en fait, on est là pour faire plaisir aux gens, mais parfois, ça entraîne évidemment des situations très toxiques. Il y a vraiment des gens qui se mettent beaucoup, beaucoup de pression en
bien
cuisine.
Bien sûr.
Et puis,
pénurie de main-d'œuvre, pénurie aussi d'approvisionnement, si je peux dire ça, de denrées, voilà.
Ouais.
Dans des situations comme on vit maintenant avec, par exemple, la guerre en Ukraine, vous savez, la moutarde, il y a eu tout un problème.
Ah oui, absolument. On voit qu'il y a des produits qui sont manquants.
Voilà.
Donc, ça crée une pression additionnelle. Mais en tout cas, chose certaine, des gens qui sont allés, même, on le sait, hein, des gens qui sont allés jusqu'à se suicider.
Tout à fait.
Juste parce qu'ils avaient perdu leur étoile Michelin. C'est fou. Hein.
C'est terrible.
C'est terrible.
Ah ben, en parlant de ça, il y a un film aussi avec Bradley Cooper où il
incarne
ce chef qui va à la recherche d'une étoile Michelin, qui est très, très stressé, il incarne beaucoup donc les stéréotypes du chef qui Il est un petit peu très orgueilleux. Hein. Il est à la recherche de son étoile, mais un passionné.
Ouais,
un passionné.
Exactement. Alors, on est là pour donner du bonheur aux gens, mais en fait, c'est ça. Ça masque une autre réalité.
Exactement.
Très intéressant. Mais il y a aussi le film Délicieux qui est sorti l'an passé. Mm-hmm. Et ça, c'est un petit peu, bon, c'est à l'aube de la Révolution française, hein, Camille. Et puis, ça va être, en fait, on parle de Pierre Manceron. Le personnage, en fait, le cuisinier qui va être limogé par son maître, le duc de Chamfort, finalement va devoir se réorganiser. Mais en fait, il va s'associer à une femme qui souhaite apprendre l'art culinaire à ses côtés, et de telle sorte que cette synergie-là entre les deux va faire que ça va être un petit peu... Ils vont créer, en quelque sorte, le premier restaurant à voir le jour. Alors, c'est le concept du restaurant est né à ce moment-là.
À ce moment-là.
Et
intéressant.
Oui, alors, et puis, c'est ça. Donc, le film qui s'appelle comme ça, Délicieux. Alors, c'est vraiment à voir. C'est un beau film.
Un beau nom aussi, Délicieux, ça met...
Oui. Et puis, évidemment, c'est toute la préparation des repas. Mm-hmm. C'est vraiment fabuleux à voir aussi, visuellement, très intéressant.
Puis, l'époque est intéressante aussi, hein, de voir des films de cette époque-là. Je trouve ça intéressant.
Alors, bon, alors ça complète. Est-ce que ça complétait notre tour d'horizon?
Oui, tout à fait. Donc, ben, pour faire un petit récapitulatif, on trouve plusieurs aspects dans le cinéma culinaire, que ce soit de la comédie, du drame, du documentaire et beaucoup de plaisir.
Absolument. Alors, c'est ça. Puis on pourrait en trouver d'autres, hein, des films qui sont reliés aussi à la bouffe. Et puis, je sais aussi que, bon, en faisant une petite recherche comme ça sur Internet, vous pouvez trouver les meilleures scènes aussi en lien avec des scènes de repas mémorables. Il y a plein de choses comme ça. Enfin, on peut faire une liste. Je pense aussi dans un film de Disney, La Belle et le Clochard, ou quelque chose, un autre film d'animation.
Oui, les spaghettis.
Ou le fameux spaghetti, ouais, c'est ça.
Belle scène.
Ils partagent
la dernière boulette de spaghetti, de viande, pardon.
Ou le dernier spaghetti, en fait. Et puis là, finalement, ils vont finir par s'embrasser, ou presque.
Ah, oui, c'est vrai.
Mais enfin, il y a plein de choses comme ça à découvrir, et puis c'est amusant. Bref, merci Camille, ça a été vraiment une belle aventure.
Ouais. Exactement, merci à vous.
Ça nous a donné l'eau à la bouche en même temps.
Oui.
Alors, ben merci, puis on se retrouve la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
Au revoir.
Les rêves des amoureux sont comme le bon vin. Ils donnent de la joie ou bien du chagrin. Affaibli par la faim, je suis malheureux. Pas longtemps chemin, tout ce que je peux. Car rien n'est gratuit dans la vie. L'espoir est un plat bien trop vite consommé. Et à sauter les repas, je suis habituée. Un voleur solitaire et triste à nourrir. Je suis amère, je ne peux réussir. Car rien n'est gratuit dans la vie. Jamais on ne me dira. Une vie à me cacher, et puis libre enfin le
Ah ben voilà, c'était cette petite musique tirée du film Ratatouille, oui, ce film d'animation sorti en salle en 2007. Et comme le disait Camille tout à l'heure, le film raconte les aventures animées d'un rat nommé Rémi qui est séparé de sa famille et qui va fuir sa colonie de rats, qui va s'installer comme ça dans les cuisines d'un grand restaurant parisien. Alors c'était ce film d'animation qui a mérité l'Oscar du meilleur film d'animation en 2007. Voilà. Bon, c'est sûr que c'est dommage, on n'a pas pu rejoindre le propriétaire des Palissades, hein, ce lieu qui conjugue randonnée et escalade, finalement un lieu magnifique dans la région de Charlevoix. On va tâcher de se reprendre, c'est sûr, parce que c'est vraiment une belle destination. Et puis si vous connaissez les Via Ferrata, ben, c'est un endroit extraordinaire pour faire ce genre d'activité. Et puis moi, je compte bien y aller assurément, parce que oui, la Via Ferrata, ben, c'est comme on peut en faire de toute façon aussi selon, il y a des niveaux différents, donc on n'est pas obligé d'être un expert pour faire ce genre d'activité. Bref, je veux juste souligner de belles initiatives. D'abord, il y a le gouvernement de l'île du Prince-Édouard qui a lancé, cet été, un programme de subvention pour l'achat de vélos électriques et traditionnels. Oui, c'est une initiative qui connaît beaucoup de succès dans la plus petite des provinces canadiennes. Et depuis l'entrée en vigueur de ces incitatifs gouvernementaux, ben, il y a quand même 700 vélos de plus qui ont été vendus à l'île du Prince-Édouard, dont 150 vélos électriques. Alors, belle initiative, en effet. Pour les vélos électriques, on parle d'un vélo vendu par tranche de 1000 habitants, quand même, ça vaut le coup, hein. Et puis, la province qui a emboîté le pas, finalement, à la Nouvelle-Écosse, qui avait annoncé aussi un programme de subvention pour l'achat de vélos électriques en 2021. Alors, pour nous, le Québec, bon, on devra attendre. En tout cas, il n'y a pas ce genre de subvention. Mais si on fait l'équivalent, là, par exemple, si je regarde la proportion de vélos qui ont été vendus à l'île du Prince-Édouard, ben, au Québec, s'il y avait eu un tel engouement, ben, ça se traduirait par la vente de 8600 vélos électriques. C'est ça. C'est quand même pas négligeable comme chiffre. Aussi, ben, il y avait un article intéressant, là, qui parlait le poids de l'anglais a continué de s'accroître au Canada et au Québec entre 2016 et 2021, la proportion de personnes dont la première langue parlée est le français ayant ainsi poursuivi son déclin. Et oui, l'agence gouvernementale rapporte, c'est les plus récentes statistiques, là, on rapporte que le pourcentage de Québécois parlant le français à la maison est passé de 79 % à 77,5 % depuis le précédent recensement de 2016. Alors, les données démontrent que la proportion de personnes dont la première langue officielle parlée est le français a chuté dans les 17 régions du Québec. La baisse est plus marquée au nord du Québec, à Laval, également à Montréal, ainsi qu'en Outaouais. Et pendant ce temps, le nombre de personnes dont l'anglais est la première langue officielle parlée a continué d'augmenter dans la province, passant de 12 à 13 % de 2016 à 2017. Et puis, le recensement précédent a également révélé que la proportion de francophones à l'extérieur du Québec avait diminué au cours de la période de 5 ans étudiée. Bref, en tout cas, chose certaine, oui, c'est vrai que ces chiffres sont quand même significatifs, mais bon, j'entendais le témoignage d'un réfugié afghan qui s'était installé dans la région de Sherbrooke, il n'y a pas si longtemps avec sa famille, mais malheureusement, comme le processus de francisation est quand même assez quand même complexe, et puis ça se fait pas en criant ciseaux, bien entendu. Alors malheureusement, il a dû, en raison du travail, quitter la région de Sherbrooke pour aller travailler du côté de Toronto. Alors c'est une autre réalité. Évidemment, c'est sûr que c'est facile de dire que, bon, le français décline, mais il faut quand même offrir aussi des conditions suffisantes là, pour que les gens puissent apprendre le français, et puis que ce soit encourageant aussi pour les gens qui viennent s'installer ici. Bref, des activités à faire du côté de la fin de semaine qui s'en vient. Là, on est au milieu de la fin de semaine, mais on peut penser à la fin de semaine qui s'en vient déjà. Alors, en fin de semaine, du côté de Val-David, le festival de céramique Mille et un pots, hein, ça, c'est un classique, ouais, c'est une belle tradition à Val-David. Alors, cet événement qui accueille sur son site une partie de la programmation du festival de théâtre de marionnettes et de jeux masqués mille et une patentes, oui, qui bougent, pardon. Alors, c'est ça. Alors, vraiment, alors on peut aller voir de beaux pots de céramique de ce côté-là. Je pense que c'est une activité quand même assez connue. Et il y a le festival Super Folk à Moran Heights qui se tient aussi en fin de semaine. Donc ça, c'est une autre activité avec, oui, une activité, une proposition musicale, bien sûr, avec pour toute la famille d'ailleurs. Et Rodeo Fest du côté du Mont-Blanc. Alors sortez le cowboy en vous, comme on dit. Venez célébrer la première édition de ce Rodeo Fest les 19 et 20 août au Mont-Blanc. Voilà. Alors on s'arrête, on s'arrête le temps d'une pause. C'est presque le temps de toute façon de vous dire au revoir. Alors bien dommage de ne pas avoir pu parler de ce centre de randonnée et d'escalade du côté de Charlevoix, les Palissades, mais on y reviendra bien sûr. Alors bref, passez une bonne journée, bon après-midi à tous, et puis on se revoit demain, on se reparle à compter de midi, donc l'émission M l'été, toujours sur les ondes de Canal M, Vue et Voix. Au revoir, ici Chantal Lavoie, ça m'a fait plaisir. Au revoir.